Hello, bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Humbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bonjour. Je suis super contente de te retrouver pour une nouvelle semaine et donc un nouvel épisode d'Entrepreneur Crossing pour te parler d'une méthode que je kiffe, la méthode du rétro-planning. Alors si tu m'écoutes depuis un petit moment, je t'en ai déjà parlé de nombreuses fois du rétro-planning, notamment dans les épisodes 16, 17 et 18 qui parlent du bilan de mon premier lancement de formation raté. Si tu les as pas encore écoutés ces épisodes, je t'invite à y aller maintenant ou à la fin de cet épisode. Et donc comme je te le disais, le rétro-planning c'est vraiment une méthode que j'adore et que j'ai découvert durant mes études en communication. Et que depuis, j'utilise notamment en gestion de projet. C'est une méthode qui est super puissante. Alors certes, elle est un peu contraignante au départ, puisqu'il faut penser à toutes les tâches que tu vas devoir faire pour atteindre ton objectif. Mais ensuite, une fois que tu as bien réfléchi et que tu as tout écrit, tu as juste à dérouler le chemin. Et je te conseille particulièrement de tester le rétro-planning si ce n'est pas déjà fait. Si tu as un objectif, une formation ou un événement qui nécessite d'être fait à une date précise. Tu vois, si tu as un projet de ce type qui nécessite vraiment d'être réalisé à un temps T qui est défini, tu vas voir que le rétro-planning peut être vraiment très 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 pratique pour t'aider à organiser ce genre de tâches. Et là tu dois te dire, mais Caro, c'est quoi un rétro-planning? Tu nous parles de ça comme si c'était le messie, mais qu'est-ce que c'est? Alors un rétro-planning, c'est donc une méthode, comme je te l'ai dit, pour lister de manière détaillée toutes les tâches que tu dois accomplir pour atteindre un objectif spécifique. Et ce, par ordre chronologique inversé. Pour faire un rétro-planning, tu vas donc partir de la fin, de la date à laquelle ton objectif doit être réalisé, et tu vas remonter le temps petit à petit pour déterminer tout ce qui doit être fait pour y arriver. Comme je te l'ai dit, le rétro-planning, c'est un outil de gestion de projet qui te permet d'organiser ton travail et de t'assurer que tu vas atteindre tes objectifs dans les délais impartis. Il peut être utilisé pour tous les types de projets, que ce soit personnel ou professionnel, et comme je te le disais en intro, c'est encore plus adapté pour les projets qui ont vraiment une date ultra précise pour être réalisés. Maintenant, je vais te donner un tout petit exemple. Pour créer le rétro-planning du lancement de ma formation, je me suis posé les questions suivantes. Alors d'abord, c'est quoi mon objectif ? C'est lancer les inscriptions à ma formation raison d'être et objectif, si possible à telle date. Ensuite, je vais me demander quels sont les éléments indispensables pour lancer ma formation. Donc là, on va parler de sous-objectifs. On va commencer à découper mon objectif en sous-objectifs pour bien tout réaliser. Et donc là, je vais commencer à me dire, ok, donc la personne achète ma formation, donc il faut que la page de vente soit active et soit bien implémentée pour que la personne puisse acheter. Voilà, déjà, il va falloir que je travaille sur la page de vente. Il va falloir aussi que dès que la personne achète la formation, elle puisse recevoir les accès à la formation sur l'outil en ligne. Donc ça veut dire qu'au préalable, j'ai mis en place un process automatique pour envoyer un mail à la personne qui achète ma formation. J'ai mis en ligne ma formation, donc ça veut dire que j'ai créé mes vidéos, j'ai testé ma formation, je l'ai éventuellement fait tester à quelqu'un d'autre. J'ai préparé les petits workbooks supplémentaires. Voilà. Ensuite, pour arriver à cette page de vente, il faut que les personnes aient entendu parler de ma formation. Il va falloir que je travaille sur le marketing. Comment est-ce que les personnes vont avoir entendu parler de ma formation sur les réseaux sociaux, les personnes qui sont inscrites à la liste d'attente, donc il faut envoyer des mailings, il faut les préparer. Les personnes qui ont téléchargé mes freebies, il faut que je commence à réchauffer mon audience. Voilà, donc tu vois, je pars de la fin et je commence à me dire, ok, donc qu'est-ce qu'il faut que j'ai mis en place pour que les personnes puissent acheter ma formation. Une fois que j'ai fait ça, je me rends compte que les sous-objectifs que j'ai définis sont encore un petit peu gros. Et que si je place ça dans mon planning, ça va être un petit peu trop imposant pour me motiver à travailler dessus. Alors pour ça, je te renvoie à d'anciens épisodes de podcast, notamment celui sur les biais cognitifs, le biais d'actualisation hyperbolique, qui va t'expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour ta motivation de découper vraiment au maximum toutes les tâches que tu as à faire en toutes petites tâches faciles à réaliser. Donc je découpe en sous-sous-objectifs. Pour que l'apprenante puisse commencer à regarder les vidéos, bah, il faut que je les mise en ligne. Et pour l'avoir mise en ligne, il faut que je les finalise, il faut que je les monte. Et pour la monter, il faut que je l'ai enregistrée et que j'ai aussi travaillé sur un support visuel. Et pour enregistrer ma vidéo, c'est important que j'ai déjà écrit un script, que je l'ai relu, que je l'enregistre. Donc tu comprends, je pars de la fin et je vais dérouler toutes les tâches toutes les sous-tâches importantes qu'il faut que je fasse pour arriver au résultat auquel je souhaite arriver. Une fois que je me suis posé toutes ces questions et que j'ai tout découpé, redécoupé, émincé, ben je vais mettre ça dans mon planning. Donc je me pose devant mon agenda, je regarde mes tâches et je vois si tout rentre dans mon agenda. Maintenant que je t'ai expliqué ce qu'est un rétro-planning, on va discuter de pourquoi c'est un outil qui est particulièrement utile et c'est quoi les bénéfices du rétro-planning. Comme tu as pu peut-être le deviner dans mon point précédent, faire la méthode du rétro-planning, ça te permet de vérifier la faisabilité de ton projet. Par exemple, si ton objectif c'est de sortir une formation dans 2 semaines, mais que pour ça tu dois scripter, tourner 10 vidéos, préparer ton marketing, créer tes conditions générales de vente, et que t'as que 2 jours par semaine consacrés à ce projet, en faisant ton rétro-planning, tu vas vite te rendre compte que tu ne pourras pas faire tenir toutes ces tâches dans ton emploi du temps. Donc ça te permet vraiment de vérifier la faisabilité de ton projet. Ensuite, autre bénéfice du rétro-planning, enfin du planning en général, c'est ça te permet de savoir exactement ce que tu peux faire maintenant pour avancer vers ton objectif. Parce que tu as tout détaillé au préalable, toutes les tâches, toutes les sous-tâches. Et du coup, quand tu te mets au travail, tu as juste à regarder ton planning et voir ce que tu dois faire à cette période. Donc ça te permet aussi de n'oublier aucune tâche et de bien gérer ton temps. Parce que c'est vrai que si on n'a pas fait ce travail préalable de découper toutes les tâches en sous-tâches et de mettre ça dans notre emploi du temps, on risque d'oublier des tâches et au dernier moment, au moment de lancer la formation ou de lancer l'événement, se rendre compte que, oh mon Dieu, on a oublié de faire ce truc qui était indispensable. Ensuite, faire cette méthode du rétro-planning, ça te permet aussi du coup de visualiser plus facilement ton objectif et toutes les étapes qu'il faut pour l'atteindre. Ça te permet aussi d'anticiper les obstacles potentiels et de trouver des solutions à l'avance. Puisque tu vas imaginer tout le process pour atteindre ton objectif, tu vas pouvoir voir où il risque d'y avoir des points de friction et du coup d'anticiper et de voir comment est-ce que tu pourrais résoudre ces points de friction-là. Autre avantage du rétro-planning, ça te permet de garder ta motivation intacte, parce que tu vois concrètement chaque jour ou chaque semaine, selon comment tu travailles, tout le travail que tu as déjà effectué, et tu vois ton projet avancer concrètement, puisque tu vas rayer tes petites tâches au fur et à mesure, d'où l'importance d'avoir des toutes petites tâches, ce dont je te parlais dans l'intro du podcast. Et ça, vraiment, ça va libérer de la dopamine dans ton cerveau et ça va te permettre de te dire que oui, tu avances sur ton projet. Et ça, c'est hyper motivant pour continuer. Ça, je te l'ai déjà dit aussi dans mes épisodes bilan, l'avantage de faire cette méthode du rétro-planning, ça te permet de pas réfléchir, en fait, de poser ton cerveau pendant que tu travailles sur toutes les tâches qui te permettent d'atteindre ton objectif. Je te redonne l'exemple du lancement de ma formation. J'avais tout prévu en avance et du coup, j'étais un peu stressée, j'avais peur de lancer ma formation, c'est normal. Mais cette peur n'est pas venue empiéter sur mon travail, sur mes tâches quotidiennes, puisque je savais ce que j'avais à faire, c'était noté dans mon emploi du temps, dans mon agenda. Et du coup, j'étais obligée de tout faire. Voilà, je me suis pas dit « Ah non, mais ça, c'est peut-être pas nécessaire, j'ai pas le temps, etc. » Non, j'avais tout prévu, j'ai tout fait, et ça m'a vraiment permis d'être beaucoup plus sereine dans mon lancement, de me concentrer sur le travail, sur les tâches, et pas la réflexion autour de « Qu'est-ce que je dois faire pour lancer ma formation ?» Maintenant que j'espère t'avoir convaincu de la puissance du rétro-planning, on va parler outils. Alors en fait, il existe vraiment beaucoup d'outils que tu peux utiliser pour faire un rétro-planning. Je vais t'en citer 3, même 4. Et si jamais tu veux faire des recherches sur les outils intéressants pour faire un rétro-planning, tu peux aller chercher du côté des outils pour faire des diagrammes de Gantt. Gantt, G-A-N-T-T, donc c'est une méthode de représentation d'un planning en gestion de projet. Le diagramme de Gantt, ça structure de manière visuelle les données que tu auras rassemblées grâce à ta méthode de rétro-planning, puisqu'en fait le rétro-planning c'est bien une méthode de création de planning, et ensuite ben, tu peux utiliser toutes les visualisations de planning que tu veux pour la représentation visuelle de ton planning. Ce que tu peux utiliser, alors c'est, moi c'est ce que j'utilisais à mes débuts, hein, c'est un tableau Excel ou une feuille de calcul Google Sheet. Donc c'est simple, ça fait très bien l'affaire. Il existe des tutoriels ou des templates qui peuvent t'aider à transformer ton tableur en diagramme de Gantt rétro-planning. Donc moi comme je te dis, c'est ce que j'ai longtemps utilisé pour ma gestion de projet, et franchement ça fait le boulot si jamais t'as pas envie de passer sur des logiciels en ligne un peu plus élaboré, ça fait très bien l'affaire. Et ça te permet aussi, autre avantage que j'ai pas listé précédemment, ça te permet de garder une trace du temps de travail que tu as passé sur un projet en particulier. Je te donne un exemple. Avant, je faisais des créations de sites internet pour des entrepreneuses, pour des clientes entrepreneuses, et justement j'utilisais une feuille de calcul Google Sheet avec un petit template diagramme de Gantt pour voir combien de temps je passais sur les projets et comment ça se distribuait dans le temps, ce qui me permettait ensuite, pour les prochains sites web que j'allais faire, de mieux évaluer le temps que j'allais passer sur ce type de projet. Donc ça, c'est aussi un des gros avantages de planifier tes objectifs et les tâches à faire avec un rétro-planning, diagramme de Gantt, planning Excel. Donc ça te permet vraiment de savoir combien de temps tu as passé sur les tâches, et du coup, si tu réitères ce genre de tâches, combien de temps ça risque de te prendre. Alors après, il existe bien d'autres outils encore, mais le rétro-planning, du coup, ça peut vraiment te permettre ce genre de choses. Donc je t'ai parlé du tableau Excel et de la feuille de calcul Google Sheet. Il y a également un de mes logiciels en ligne favoris, fétiche, c'est Notion. Et Notion, depuis un petit moment, propose une visualisation des bases de données en vue timeline. Et ça permet vraiment d'avoir une vision super claire des tâches à effectuer et de leur progression dans le temps. Et en plus, il y a pas très longtemps, Notion a ajouté la possibilité de gérer des sous-tâches et de conditionner aussi des tâches à la réalisation d'autres tâches. Et ça rend cette vue timeline hyper puissante, et on se rapproche vraiment beaucoup du diagramme de Gantt, et ça te permet d'avoir un planning au poil. Si jamais tu utilises Notion et que tu ne connais pas cette vue timeline, ou alors que tu ne t'es pas encore intéressé à la fonctionnalité des sous-tâches et des tâches conditionnelles, bah, je te conseille de regarder quelques tutos et d'aller y faire un tour et de tester. Parce que tu vas voir, c'est ultra puissant. Alors si t'aimes pas Notion, mais que tu utilises Trello, il existe des extensions, des power-ups dans le langage Trello, qui te permettent de présenter les données sous forme de diagramme de Gantt. Alors moi je t'avoue que j'ai testé très rapidement il y a quelques années et j'ai pas été convaincue, mais depuis je sais qu'il y a des nouveaux power-ups qui sont sortis et qui sont peut-être plus performants. Mais du coup je sais que cette fonctionnalité elle est utilisée avec Trello, donc si toi c'est ton outil de travail et que t'as pas envie de changer d'outil, bah tu peux peut-être essayer. En description de l'épisode, je te mets un lien vers le blog de Trello qui explique comment créer un diagramme de Gantt en ligne avec Trello. Et ensuite, le quatrième outil bonus, on va dire, qui va pas te permettre d'avoir une visualisation de ton planning, mais qui va certainement t'aider dans la démarche de découper tes objectifs en sous-objectifs et en sous-sous-sous-objectifs, et d'avoir comme ça un panel de tâches ultra détaillées sur ce que tu as à faire par grands objectifs, bah c'est la carte mentale. La carte mentale, je t'en parle dans l'épisode 6 de mon podcast, donc si jamais tu ne connais pas l'outil, tu peux aller voir ce que ça donne. Et moi, j'utilise beaucoup la carte mentale pour faire du jus de cerveau, tu vois, pour sortir ce que j'ai dans la tête et structurer surtout ce que j'ai dans ma tête. Donc ça, ça peut être ultra utile dans la partie découpage des objectifs et découpage des tâches. Et encore une fois, si ça t'intéresse, j'ai fait une grande carte mentale de mon bilan de lancement de formation. Donc si jamais tu veux voir à quoi ça ressemble, eh ben, je t'invite à aller voir les épisodes de podcast 16, 17, 18 et les articles de blog associés. Tu verras que j'ai donné un accès libre à la grande carte mentale bilan de ce lancement. Maintenant que tu as envie d'essayer le rétro-planning, je te récapitule la petite méthode express pour créer ton rétro-planning et les étapes par lesquelles je te conseille de passer pour avoir un planning qui déchire. L'étape 1, tu détermines ton objectif et la date à laquelle tu souhaites l'atteindre. Donc c'est important que ton objectif soit bien formulé. Hein ? J'ai fait des épisodes de podcast et des articles de blog là-dessus. J'ai aussi un challenge 6 jours pour des objectifs Smart and Beyond qui t'aide à bien formuler tes objectifs pour les prochains mois. Donc si ça t'intéresse, va voir dans la description de l'épisode. Mais en tout cas, première étape, il te faut un objectif, il te faut une date. Et bien sûr, il te faut donc un objectif Smart et même plus. Parce que sans cette base, ça va être compliqué. Étape 2. Bah maintenant, il va falloir que tu listes toutes les tâches nécessaires pour atteindre ton objectif par ordre chronologique inversé. Donc, tu prends ton objectif et puis tu te demandes, ok, pour atteindre cet objectif, du coup, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse ? Donc, tu commences par la date à laquelle tu souhaites atteindre ton objectif et puis tu travailles en arrière pour déterminer les étapes à suivre pour y arriver. Et ensuite, t'hésites surtout pas à passer du temps pour décomposer chaque tâche en étapes plus petites et plus gérables. Tout ça pour t'aider à rester concentré et motivé tout au long du processus. Donc c'est un petit peu long, ça va te demander un petit peu de travail, mais tu vas voir qu'à long terme, ça va te faire gagner un temps fou, ça va préserver ta motivation, ça va te permettre de passer à l'action et surtout de passer au-dessus de tes peurs inhérentes à la réalisation de l'objectif. Étape 3. Maintenant que tu as toutes les petites tâches à réaliser pour atteindre ton objectif, tu vas attribuer des dates limites à chaque tâche et tu vas mettre en place des rappels pour toi-même. Tu vas mettre tout ça dans ton agenda, tu vas organiser ton process de travail et puis chaque semaine, tu vas voir, ou chaque mois, enfin ça dépend de ta temporalité, la temporalité avec laquelle tu travailles, tu vas regarder, ok, cette semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme tâche ? Ou alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'il faut que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif ? Ou alors, encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif ? Et voilà, je pense que je t'ai dit à peu près tout ce que je savais sur les rétro-plannings. J'espère que si tu ne connaissais pas cette méthode, ça t'a donné envie d'essayer. En tout cas, moi je suis très curieuse comme d'habitude, donc si jamais tu testes la méthode du rétro-planning, que t'as des questions, que t'as des retours, on peut en discuter, d'ailleurs j'en serais ravie. N'hésite pas à me contacter sur Instagram par message privé ou par mail, je reste disponible. En attendant, je te souhaite plein de petits passages à l'action, plein de petits bonheurs. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine. Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine !